line in the streets. Too much gunshot, you can't walk too free. Light bulb on, everything dark. Gunshot a bark, east, west and north. Don't you see, everyone a go far. It's a danger zone. Murder rap. Not all good time is gold. Don't sell out and lose your soul. Hey.
Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt. Chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space.
Il est 20h02 et tout de suite, retrouvez une nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Sport, bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour parler de sport et uniquement de sport, de l'actu locale, de l'actu nationale, internationale. Il y en aura pour tout le monde ce soir au sein de Génération Sport. On va démarrer pied au plancher, mais d'abord je vais quand même vous présenter l'équipe, le collectif autour de moi ce soir. Forcément on va commencer par le réalisateur de l'émission, comme toujours c'est une tradition maintenant. Comment vas-tu, Faustin ?
Salut Florian, salut tout le monde. Bah ça va toujours très bien. Une victoire pour moi ce week-end en plus.
Donc, t'as repris ?
J'ai repris.
C'est bien.
Voilà.
Ça veut dire que les blessures sont un peu plus loin pour toi.
Un peu apaisées.
Exactement. On en avait peut-être un peu marre de devoir arriver en béquille tout au long de ces saisons. Donc voilà. Mais en tout cas, on est ravis pour toi d'avoir cette victoire à la clé. À ma droite, comment vas-tu, Mathéo ?
Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va très très bien. Très content aussi de finir cette semaine de vacances où personnellement j'ai bossé.
Ouais.
Donc finalement la fac, ça me plaît bien.
C'est toujours intéressant d'étudier et d'apprendre un métier que t'as envie de faire plus tard.
En plus, ouais. Oui, c'est sûr.
Amaury est là aussi exactement ce soir. Comment vas-tu ?
Eh bah, ben ça va très bien. Très heureux d'être ici et hâte de découvrir un nouveau sport que je connais pas forcément avec nos invités que tu vas pouvoir nous présenter tout de suite.
Exactement, l'occasion avant quand même de saluer Cédric à distance puisque ça fait quand même quelques semaines qu'il n'a pas rejoint l'équipe, mais on espère qu'il va bien et il sera de retour prochainement. En tout cas il est en plein déménagement le père Cédric, donc on pense à lui. Oui, on va quand même parler ce soir d'une autre discipline. Tous les 15 jours, vous le savez, au sein de Génération Sport, on parle d'une discipline présente sur Angers et cette semaine donc c'est les Hawks d'Angers qui sont dans le studio. On parle de roller hockey, présents ce soir Charlie Allard, Adrien Desopi et Oscar Trocmé. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous accueillir et l'interview commence dès maintenant, puisque on va rien cacher à nos auditeurs. Ils ont entraînement à 21h et ils ont la gentillesse de vraiment être avec nous ce soir. Donc, on va les libérer très rapidement. Mais avant cela, on va quand même parler de leur discipline avec toi, Mathéo, et avec Amaury aussi également dans cette interview. Donc, sur les Hawks d'Angers.
On va essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc forcément ça sera un petit peu condensé, mais en tout cas le club des Hawks, de roller hockey, il a été fondé en 1996 avec la création donc du secteur roller, de la section roller au sein de l'association des sports de glace de la ville. On a eu beaucoup de choses depuis, on va pouvoir revenir sur vos exploits passés, actuels, mais avant tout cela, nous on a une petite question traditionnelle dans l'émission pour briser un petit peu le mur de glace, sans mauvais jeu de mots. Comment se joue le roller hockey, messieurs? Charlie?
Avec une crosse déjà, ce sera pas mal. Non, c'est un sport qui se joue à 4 joueurs contre 4 joueurs, plus un gardien de chaque côté. Il y a souvent des effectifs de 12 joueurs, donc c'est comme au hockey sur glace avec des lignes qui vont changer au fur et à mesure du match, pas forcément avec des arrêts de jeu, c'est en continu. On n'a pas de hors-jeu, il n'y a pas de dégagement interdit, ce qui fait que ça fluidifie encore plus le jeu et ça offre un spectacle assez intéressant pour tout le monde.
Le mot spectacle, c'est un peu la clé de votre sport, parce que c'est un sport qui va très très vite forcément, vu que vous êtes sur des rollers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des spécificités tactiques du roller hockey?
Alors, spécificité tactique, c'est assez compliqué. On va dire que il y a surtout des phases offensives et des phases défensives. Quand vous n'avez pas le palais, on peut partir sur des losanges ou des carrés, mais ça, c'est des systèmes propres à chaque équipe. Offensivement, c'est surtout mettre en place des sorties de zone pour arriver facilement à la cage adverse et se procurer des occasions et marquer des buts. Mais effectivement, c'est un sport qui va très vite et les occasions vont de part et d'autre sans cesse.
On a plusieurs postes au roller hockey. Chacun, vous représentez presque un poste puisque vous êtes deux à être attaquant et un à être défenseur. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos postes et des postes en global? On n'a pas de gardien, par exemple. J'imagine que c'est un pilier important aussi au sein de votre effectif. Mais parlez-nous déjà du rôle d'attaquant. Peut-être toi, Adrien, qui est attaquant. Et puis derrière, Oscar, tu nous parleras de toi qui est défenseur.
Le rôle d'attaquant, c'est tout con. C'est pour marquer des buts. Après, il y a quand même beaucoup de... Ça se mélange un peu. Un défenseur peut vite se retrouver devant la cage et aller mettre un but. Comme l'attaquant se retrouve forcément au bout du match à défendre. Donc à la finalité, il y a un poste de base, mais qui se mélange beaucoup sur le terrain.
Il faut être assez polyvalent. Est-ce qu'il faut être aussi polyvalent, Oscar, en défense?
Oui, comme l'a dit Adrien, c'est un peu ça. Il faut savoir avant tout défendre, parce que c'est le rôle principal. Mais dès qu'il y a des contre-attaques, un défenseur peut facilement se retrouver devant la cage. Donc il faut avoir un minimum d'habileté et de maniement de la crosse pour marquer des buts quand l'équipe en a besoin. Mais le premier rôle, c'est vraiment de défendre. Et ouais, c'est bien. Il y a pas mal de rôles différents en fait dans l'équipe. Il y a des défenseurs qui vont être plus amenés à faire que de la défense et d'autres qui vont être défenseurs, mais quand même être dirigés beaucoup vers l'attaque. Et donc il y a plusieurs rôles en tant que défenseur.
Et Charlie, je me retourne vers toi pour parler du coup du poste qui est un peu le plus populaire, on va dire, au sein des personnes qui voient le hockey comme ça, c'est le poste de gardien forcément. Toi, t'es pas gardien, t'es attaquant, mais t'es entraîneur, donc je pense que tu es le plus à même ici de nous parler de ce poste.
Oula, c'est un poste qui est quand même assez spécifique. Je pourrais pas te parler de technique de gardien de but, ça c'est pas possible. Mais effectivement, le gardien, c'est primordial dans le hockey. C'est en général une victoire, on dit que c'est 90% grâce au gardien. Donc effectivement, si le gardien il est pas là et qu'il fait pas les arrêts au bon moment, ça peut vite mal tourner.
Donc le roller hockey, c'est pas le premier sport auquel on pense déjà quand on pense hockey, mais surtout voilà, quand on pense sport, le roller hockey, c'est pas le sport le plus médiatisé du tout. Comment est-ce qu'il est arrivé sur Angers, ce sport, le roller hockey? Parce que ça a été fondé en 96, mais c'est né de quoi? Est-ce que vous le savez, vous, d'une idée peut-être de
la glace, je pense, l'été quand je pense que quand il y avait pas, enfin aux États-Unis tout ça c'est venu comme ça, quand il y avait pas la glace, ça s'arrête avril mai, de mai à août ou septembre, tu mets les rollers et de base c'était un sport d'été.
Okay.
Et je pense que ça arrivait comme ça à Angers. Après, je connais pas de 96, j'étais à peine né, donc
ça a été créé en 96 donc par Patrick Moreau. En fait, son fils, il jouait au hockey avec donc les Vincent Charbonneau, Geoffroy Tijoux, les frères Clisson à l'époque, qui ont été des piliers de ce club quand il a été monté, qui jouaient ensemble dans la rue et ils se sont dit bon, écoute, on va créer un club et puis on va y aller comme ça. Puis de fil en aiguille, on arrive maintenant plus de 20 ans plus tard et le club, il est toujours là, donc c'est cool.
Vous êtes en première division, du coup. Est-ce que ça a été toujours le cas dès la création de votre club en roller hockey?
Alors, je crois qu'ils ont toujours été en première division, il me semble, parce que, de mémoire, Angers est un des seuls clubs qui n'est jamais descendu. Donc, ça veut dire qu'ils ont toujours été au plus haut.
Et la Ligue, elle existe depuis avant 1996?
Non, je crois que ça veut dire...
C'est l'année de création et vous étiez...
Ouais, à peu près, ouais. Il devait y avoir, peut-être 4 ou 6 clubs à l'époque, et puis ça se bataillait, quoi.
En tout cas, les Hawks, qui s'appelaient pas comme ça à l'époque, ont directement performé. Champion de France 98, 2000, 2001 et 2002. C'est un joli run. Je pense que c'est peut-être même l'un des plus beaux qui doit exister dans la Ligue, logiquement, sur le plan comptable. Peut-être pas le plus beau, forcément, mais en tout cas, c'est quand même un joli run qui a marqué l'histoire du club. Parlez-nous un petit peu de ces années glorieuses. Est-ce que vous les connaissez déjà et est-ce qu'aujourd'hui ça marque encore le club?
Ça marque encore le club, oui. Après, connaissez, non. Moi, je suis arrivé au club en 2006. Donc, ça était déjà passé depuis un petit moment. Moi, tous ces joueurs-là qu'on jouait à cette époque-là, je les ai très peu connus. Parce que je suis arrivé, j'avais 7 ans. Donc, bon. Puis, non, pas connu du tout, moi.
Ok. Et donc, on l'a dit, le dernier titre, c'est en 2002. C'est vos 4 titres de champion de France de première division. Est-ce que, du coup, on peut, comme ça, émettre une hypothèse sur le début des années 2000, qui est un tournant pour le championnat et pour le sport de roller hockey, avec peut-être plus de projets professionnels concrets qui arrivent dans votre ligue et donc forcément plus de concurrence pour vous?
Alors, je pense qu'effectivement, les années 2000, c'est vraiment le début du roller hockey en France. C'est là où tout a commencé à se mettre en place. À l'époque, c'était vraiment un sport qui était encore moins médiatisé que maintenant, qui était pas connu du tout, juste des gens qui faisaient du hockey sur glace et qui venaient un week-end de temps en temps faire un petit match de roller. Mais le gros tournant, il a quand même été au niveau des années 2010, où c'est là où la Ligue, donc ça a changé de nom, c'est devenu la Ligue Elite. Et c'est là où il y a vraiment commencé à avoir des joueurs professionnels, en gros, qui sont payés dans certains clubs pour venir juste jouer dans la Ligue Elite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à l'une des meilleures ligues au monde.
Et c'est le cas aussi à Angers. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont professionnels?
Il y a eu des joueurs qui ont été payés. Mais ça a été très rare. C'est un des seuls clubs qui a quand même énormément misé sur les joueurs français avant tout. Et à l'heure actuelle, il n'y en a plus.
Alors, je voulais aussi voir avec vous. Forcément, on ne va pas que parler de vous si on parle de ligue. Quelles sont un peu les plus grosses équipes de votre championnat? Tout à l'heure, je te voyais hausser un peu les sourcils quand je te parlais de longévité. Est-ce qu'il y a une équipe qui est l'équipe marquante en France?
Ouais, il y a les Diables Rouges de Rethel. Et quand tu me parlais de run, je pense que eux, ils ont dû en gagner peut-être 10 d'affilée. Okay. Donc, en gros, si on résume, ça veut dire 96 jusqu'à 2024, il y a 28 ans, je pense qu'ils ont dû en gagner au moins 15 sur les 28. Donc ça fait 1 sur 2, c'est pas mal.
En tout cas, vos ambitions, vous les avez quand même gardées depuis vos titres de champion de France. Vous avez été notamment en finale en 2006, puis plus récemment en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez une ambition qui est celle au moins de gratter le top 3 de votre classement final, pardon? Ou est-ce que vous faites un petit peu au feeling, vous voyez comment peut se dérouler la saison à ce niveau-là?
Les autres années, on s'était dit le maintien, donc le top 8. Après, là, cette année, on s'est dit d'aller essayer de gratter ou de au moins embêter les grosses équipes pour essayer d'aller gratter une demi-finale de play-off. Ça serait très bien. Après, on a un effectif très jeune. Je crois que la moyenne d'âge, ça doit être 22 ans grand max. Donc,
c'est aussi une des grandes forces de votre équipe et de votre club.
Bah, ça commence à le devenir parce que là, ça doit faire 3-4 ans qu'on a le même groupe. Donc, il y a des jeunes qui sont arrivés à 17 ans dans l'équipe, donc ils commencent à grandir. Au fur et à mesure des années, ils ont appris. Donc, à terme, ça peut peut-être devenir une grosse, grosse force. Après, faut garder les joueurs et faut les faire évoluer, quoi.
Vous nous parliez de titiller le haut du classement. Pour l'instant, c'est le cas. Vous êtes troisième à 3 points du leader. Une seule défaite en 4 matchs et c'est celle qui a eu lieu lors de la dernière rencontre, en plus à domicile. On reviendra peut-être un petit peu après sur cette rencontre déjà, mais est-ce que vous êtes satisfait de votre début de saison?
Le début de saison, il est parfait. En soi, Vierzon est censé être une équipe qui est dans le top 4 ou top 5, donc avec qui on va être en concurrence pour remplir nos objectifs qu'on s'est fixés au début de l'année. Maintenant, oui, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé la saison par 4 victoires en 4 matchs. En plus, on va en chercher une à Caen sur un terrain qui nous correspond pas forcément. On fait un déplacement un peu de pêche à Valence, donc on arrive à revenir avec les 3 points. Donc parfait, en vrai, le début de saison, 5 matchs, 4 victoires. Je signe tous les ans pour qu'on commence comme ça.
Et donc, du coup, quand même, on va en parler parce que c'est votre dernier match. Hein. Désolé que ça tombe sur celui-ci. C'est comme ça, mais donc contre Vierzon, tu l'as dit, qui est un de vos concurrents directs sur cette saison, qui reste quand même 8e sur 12, qui fait pas un excellent début de saison à ce niveau-là, et pourtant qui a sorti un énorme match contre vous à domicile, et notamment donc cette deuxième mi-temps où qu'il gagne 3-0, pardon. Parlez-nous de cette rencontre. Quelles difficultés vous avez rencontrées, notamment dans ce deuxième acte?
Après, il faut aussi prendre en considération, c'est que Vierzon a joué Villeneuve et Rethel dans les quatre premiers matchs, donc ils sont les deux premiers du championnat. Et ils ont pas mal de nouveaux joueurs, dont certains qui arrivent du hockey sur glace, donc qui n'avaient pas vraiment le bon patinage, ce qui fait que leur premier match, ils se sont fait surprendre à Ris-Orangis. Et derrière, on le voit, parce qu'au quatrième match, ils ont gagné 11-3 contre Caen. Donc voilà, donc ils sont arrivés plein de confiance. Puis bah nous, dès le début du match, on se met en difficulté en prenant un but au bout de 8 secondes. Et derrière, je pense que bon, ils ont une belle équipe, il y a des belles individualités. Je pense que les individualités ont fait la différence samedi soir. On n'est pas si loin, je pense que nous on fait pas un bon match. En tout cas, défensivement, on n'est pas en place. Donc après, ça laisse prévoir un match retour intéressant.
Tu nous parlais de Villeneuve, du coup. Villeneuve qui est la prochaine équipe que vous affrontez à domicile en plus, donc vous allez pouvoir justement un peu rectifier le tir, j'ai envie de dire. Deuxième du championnat, toujours invaincu comme l'équipe leader d'ailleurs. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour jouer contre cette équipe qui sur le papier est plus forte?
Ouais, sur le papier plus forte. Après, c'est une équipe qui nous réussit un peu plus dans le jeu parce que elle est un peu moins structurée. Elle donne un peu tout pour l'attaque. Donc si on en défendant bien, t'as forcément des contre-attaques et c'est un peu de réussite. Et puis ces dernières années, on a dû les battre une fois sur deux à chaque fois. Donc bon, on verra bien cette année.
En parlant de bien défendre, quand j'ai regardé les résultats des premiers matchs, je vois que vous êtes une équipe peut-être qui marque pas énormément de buts par rapport à d'autres, mais vous en prenez très peu aussi. C'est voulu. C'est un objectif vraiment qui est voulu.
Ouais, moi je suis revenu au club en tant qu'entraîneur-joueur, ça doit être ma cinquième année maintenant. Et quand je suis revenu, les Hawks sortaient d'une saison compliquée. Et le premier mot, ça a été la défense. Donc en vrai, ça fait 4 ans qu'on bosse dessus. Et ça commence à payer, comme disait Adrien tout à l'heure. On a beaucoup de jeunes. Donc il a fallu les former, qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils sachent vraiment comment réagir en fonction des situations dans les matchs. Et là, on commence à vraiment obtenir les résultats de tout le travail qu'on a fourni depuis 4 ans. Donc, c'est vrai que oui, c'est pour ça, nous, c'est un point fort et on est fiers d'avoir une grosse défense.
Bah, tu nous parlais de ton rôle, justement, là, d'entraîneur-coach. Enfin, d'entraîneur-joueur, pardon. Entraîneur-coach, ça.
Ouais, je suis entraîneur-joueur-coach.
En tout cas, de toutes les casquettes que tu portes au sein du club, est-ce que tu peux nous parler, justement, de comment tu fais, tout simplement?
Comment je fais? Je jongle entre les trois casquettes en permanence. J'avoue que les premières années, ça a été compliqué. Après, cette année, j'ai fait une réunion au début de saison pour dire aux gars, il faut que vous arriviez vous aussi à comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est pas toujours évident, surtout à l'entraînement, ça va parce que je suis que l'entraîneur. Mais quand c'est en match et qu'il faut que je joue et que je coach en même temps, des fois, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai des gars comme Adri ou Oscar qui sont là pour m'aider de temps en temps et faire passer les consignes à ma place et comme ça c'est plus fluide pour tout le monde, c'est plus facile pour moi déjà parce que je peux me concentrer un peu plus sur mon jeu et ça permet à tout le monde d'avoir des informations cohérentes et c'est fluide.
Forcément, on voit que ça te prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. D'où est-ce qu'elle t'est née cette passion pour le roller hockey? Parce que j'imagine que c'en est une forcément.
Oui, ça l'est devenu. Moi à la base, j'ai commencé le hockey sur glace à 4 ans à Caen chez les Drakkars. Et après, je suis arrivé au roller, je devais avoir 14-15 ans. C'est un de mes meilleurs potes faisait les deux, il faisait du roller. Et mon entraîneur de l'époque de glace faisait du roller et de la glace et m'entraînait à la glace. Donc il m'a dit, écoute, viens essayer le roller. J'y étais, puis je suis jamais parti.
Non, est-ce que c'est une manière traditionnelle, ça, d'entendre parler du roller hockey? On va pouvoir avoir peut-être, vous, votre avis aussi, Adrien, notamment. Je te regarde parce que t'es plus jeune, donc forcément, est-ce que toi tu vas pouvoir nous parler de comment est-ce que tu as entendu parler du roller hockey? Est-ce que c'est différent de Charlie?
C'est exactement pareil. La seule différence, c'est que moi c'était à Angers, au Duc. J'ai commencé au Duc. J'ai joué au Duc jusqu'à mes 16-17 ans. Et j'ai commencé le roller en 2006, je crois. Ouais, 2006. Et j'ai fait les deux pendant 10 ans. Donc, puis au bout d'un moment, ça devenait un peu compliqué avec parce qu'à la glace j'étais en sport-études, donc je m'entraînais tous les jours à la glace. Je montais deux fois par semaine au roller. Et j'avais match le samedi à la glace et le dimanche au roller. Et donc les semaines étaient un peu chargées. Arrivé en junior, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse un choix. Donc à contre-cœur ou pas, je suis allé au roller et puis je suis arrivé en élite à 16 ans, 17 ans.
Et pourquoi le roller par rapport au hockey sur glace? C'est peut-être la mentalité, les valeurs ou alors juste le sport qui t'a...
À cette époque-là, c'était plus un choix de tête instantané. C'était en fait, ça s'est un peu mal fini à la glace avec un peu une mise à la porte, mais entre guillemets, fallait que j'arrête un des deux. Donc en fait, ils m'ont mis un peu un ultimatum en me disant, tu peux pas continuer les deux. C'est soit ça. Donc au final, à la glace, au Duc, c'était un peu bouché à l'époque. Il y avait très peu de place pour les Français. Donc je suis parti au roller.
Ou du coup à Angers on donne beaucoup plus de place pour les Français, c'est ce que tu me disais tout à l'heure.
Ouais, et puis à cette époque-là, il y avait une très belle génération au roller. Donc pour apprendre, c'était idéal, et puis il y a eu les stages équipe de France qui ont commencé quand en junior, donc il y avait tout pour rester au roller.
Parce que à ce niveau-là, du coup, la formation, comment ça se passe au niveau des Hawks? Est-ce que c'est vraiment le cœur vous de votre club, Charlie?
Alors on est à combien de licenciés, Oscar, tu dois savoir? 240, je crois. Ouais. On est à 240. Longtemps, les dernières années, on n'avait plus beaucoup de jeunesse. Après le Covid, là, ça a été hyper compliqué. Ouais. Franchement, ça a été une galère. Et là, c'est en train de bien repartir. Donc, on est content. On doit avoir quasiment entre 90 et 100 licenciés en jeunes. Donc, ça, c'est l'idéal. Maintenant, il faut les former. Il faut repartir de zéro. On a un coach qui est là pour s'en occuper à plein temps. Donc, ça, c'est bien aussi, parce que c'est pas pareil dans tous les clubs. Donc, maintenant, il faut juste prendre le temps, leur laisser le temps de grandir. Et puis, ça reviendra, c'est sûr. Parce que là, nous, dans l'équipe, on a, je pense que trois quarts de l'équipe, ils sont issus de la formation du club des Hawks et un peu de la glace à l'époque, mais c'est intéressant. Donc je pense qu'il y a une bonne formation, il faut juste leur laisser le temps de grandir.
Ouais, tout sport confondu, pour donner à nos auditeurs, 240 licenciés, c'est quand même
c'est beaucoup, hein.
C'est un beau club, hein. C'est un très gros club sur Angers, que ce soit en foot, rugby, basket et d'autres disciplines. Donc franchement, ça fait plaisir à voir, de voir des clubs amener les jeunes vers le sport. Et donc 240, c'est vraiment très très bien.
Oui, carrément. Et dans ces 240, justement, surtout sur les nouveaux jeunes qui viennent, est-ce que c'est vraiment des personnes qui viennent du secteur, donc qui ont entendu parler des Hawks uniquement de par le physique ou par peut-être les réseaux sociaux, voire peut-être le bouche à bouche, le bouche à oreille, pardon.
Le bouche à bouche, c'est
l'information aussi, mais c'était dans le fond.
J'ai fait mon PSR il y a 3 semaines.
PSR 3 semaines. Donc voilà. On va dire
on
c'est
en
ça.
Plein dedans. On est en plein dedans.
Donc est-ce que c'est des gens qui sont vraiment autour de la salle Claude Debussy ou pas du tout?
Ouais, il y a un peu de tout. Après, comme tu l'as dit, ça peut marcher par les réseaux sociaux, le bouche à bouche, comme tu nous as dit tout à l'heure. Mais non, je pourrais pas te donner vraiment de pourcentage sur d'où viennent les jeunes, mais ça vient vraiment d'un peu partout. Ça peut venir d'Angers, ça peut venir du quartier où se trouve la salle, et ça vient aussi des communes aux alentours. Donc, mais c'est beaucoup le bouche à oreille quand même.
Et c'est aussi parce que du coup vous avez des initiatives inédites et puis un club inédit, tout simplement un sport inédit dans le département, et notamment sur Angers. Et justement dans ces initiatives inédites, il y en a une qui est née en 2020, c'est la section féminine. Est-ce que tu peux nous parler de cette section féminine qui marche de plus en plus?
Alors effectivement, inédit, je suis pas sûr qu'elles vont bien le prendre si on dit ça comme ça, mais
non, c'est sûr, mais c'est pour parler quand même du fait que c'est projet hyper intéressant.
C'est un projet qui a été mené par Gaylor principalement, et puisque à l'époque, ils ont eu une génération de filles qui est arrivée toute petite, elles devaient avoir 4-5 ans, elles sont toutes arrivées en même temps, elles ont gravi tous les échelons, elles sont arrivées à maturité, l'année dernière, elles ont gagné le titre de N2 féminine. En plus, elles avaient Pauline Bernard qui était déjà au-dessus d'elles en termes de génération et qui est en équipe de France. Et du coup, ça les a toutes tirées vers le haut. Et là, maintenant, on va voir ce qu'elles vont donner dans la Ligue première, quoi.
Et ça donne quoi depuis le début de saison? Est-ce que les matchs, ils ont commencé?
Alors, je crois qu'elles ont joué 4 matchs. Elles sont à 2 défaites et 2 victoires.
Ok. Et justement, tu nous parlais de Camille Bernard.
Pauline Bernard.
Est-ce que de Pauline Bernard?
Oui. Ok.
Excuse-moi.
Bon, non, mais c'est bien. On l'appellera Camille tout à l'heure à l'entraînement, c'est pas un problème.
Non, mais du coup, elle, comme tu l'as dit, elle est internationale française, championne du monde même, je crois.
Ouais.
Et du coup, comment est-ce que vous faites au sein du club pour garder ces joueuses-là? Parce que j'ai cru voir qu'elle était en études en STAPS à Angers, que c'est pour ça qu'elle restait. Et du coup, comment on peut garder une joueuse comme ça quand on est en deuxième division?
Bah après, c'est un parcours assez particulier. Elle était à Saint-Médard les deux années précédentes, donc avec qui elle a gagné la Coupe de France et le championnat de France féminin de première division. Mais comme tu disais, elle était en STAPS, c'était sa dernière année, donc je pense qu'elle a vraiment voulu se concentrer sur son année scolaire. En plus de ça, elle avait l'opportunité de faire monter l'équipe féminine en première division. Puis Angers, ça reste son club, c'est le club où elle a été formée, donc à mon avis, elle a voulu rendre un peu au club ce que le club lui a donné toutes ces années.
Justement, cette atmosphère bienveillante et surtout de passion, c'est ce qui règne dans votre salle et notamment au sein de vos supporters. Parce que moi, du coup, j'ai été voir un match l'année dernière et c'était vraiment marquant, ce public de passionnés, de personnes qui s'y connaissent. Non, mais c'est réel parce que j'étais à côté de personnes qui, tout simplement, me sortaient des statistiques. Je n'aurais même pas pu les trouver. C'est limite si ce n'est pas eux qui avaient créé les statistiques ou qui les avaient vues juste pour ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant.
J'aimerais bien savoir qui était la personne à côté de toi parce que j'ai une petite idée.
Bon, voilà, on lui passe un
bonjour. Salut Antoine.
Voilà. Non, mais parle-nous un peu de ce public quand même, parce que c'est aussi la réunion de passionnés du hockey en global.
Bah après, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les gens que tu vois quand tu viens voir un match chez nous, c'est que des gens qui font du roller, ou alors c'est leurs enfants qui font du roller, ou leurs frères et sœurs qui font du roller, ou leurs cousins. En fait, comme tu dis, le roller, c'est un sport de passionnés. Moi, je vois, je fais ça depuis que je suis gamin, et maintenant, dès que je vais jouer les matchs, à Caen, par exemple, dans mon club formateur, mes parents y viennent, ma tante, mes cousins, tout le monde vient, et c'est une grosse ambiance. Mais en plus, à Angers, on a créé quand même une dynamique là, les quatre dernières saisons, ce qui fait que les gens, à partir du moment où tu gagnes un match, puis deux, puis trois, tu fais venir de plus en plus de monde et les gens ils se mettent de plus en plus au jeu. Et forcément, ça monte crescendo, quoi. Et comme c'est un sport spectacle, comme je te disais tout à l'heure, ça peut vite, les gens ils se prennent vite au jeu.
Moi, j'avais une question. Alors, c'est un sport spectacle, d'accord, mais là, en plus, on voit que vous faites de nombreux déplacements quand même, vous traversez la France par rapport à ce championnat. Je me demande toujours comment un club comme les Hawks fait pour vivre aussi également. Alors, j'imagine qu'il y a pas mal de sponsors. Tu regardes à ta gauche, donc peut-être qu'il y a des réponses.
S'ils voulaient parler, c'est
tout. Ah oui, voilà. Non, mais s'ils veulent parler, bien évidemment. Mais comment en faire un club pour vivre comme les Hawks avec tous ces déplacements? J'imagine en plus que vous avez des métiers à côté. Donc, pour s'organiser tout au long de la saison et tout au long d'une semaine, comment vous faites? Alors, les gars, allez-y.
En termes de sponsors, pour répondre à ta première question, on a des subventions qui viennent de la mairie, déjà. On a des subventions qui viennent de la région. Mmh. Et ensuite, principalement, c'est les sponsors que nous, on va aller trouver à droite, à gauche. Souvent, c'est des connaissances à nous qui ont des boîtes ou qui cherchent un peu, ou que ça leur fait juste plaisir de nous donner un peu d'argent pour nous donner un coup de pouce. Donc, on les remercie s'ils nous écoutent, parce que on leur dit pas assez souvent.
Ça sert aussi à ça, bien sûr.
Donc, tout ça fait que on arrive à budgétiser nos déplacements et un peu de matériel pour les gars. Et faire en sorte qu'on puisse être dans de bonnes conditions pour performer.
Et après, pour l'organisation des déplacements, Adrien, comment tu fais, en fait, comment vous faites, parce qu'il y a l'entraînement, il y a le déplacement à la semaine, donc j'imagine que c'est quand même pas forcément, le week-end, pas forcément évident.
C'est pas évident quand on est tout seul étudiant, où c'est facile. Après, quand on a une famille ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après, de toute façon, la famille est au courant au début de la saison que on signe pour se déplacer, pour jouer. Donc la condition est acceptée. Donc après, j'entends que c'est dur pour ceux qui restent à la maison le samedi, d'être tout seul ou de passer qu'un jour sur deux du week-end avec nous, mais bon, c'est le sport.
On l'a fait pour tous les clubs, donc il y a des entreprises qui écoutent ou qui sont amenées à écouter un jour, n'hésitez pas à investir dans le sport amateur, parce que ça peut aussi servir
parce que on n'a pas affaire à des professionnels en face de nous, même s'ils sont en première division de leur discipline. Mais voilà, si il y a des équipes, enfin des entreprises, des personnes qui veulent investir, des mécènes dans des clubs, ça peut les aider aussi, parce que voilà, il n'y a pas forcément le matériel, et aussi donc pour les déplacements, le minibus, potentiellement les hôtels, les repas sur place. Donc n'hésitez pas à investir dans le sport amateur, parce que ça fait vraiment, c'est vraiment très important à faire. Est-ce que tu as une dernière question? J'en ai une petite aussi, peut-être au passage.
Eh ben vas-y, parce qu'après il sera temps sans doute qu'on les libère.
Il sera temps qu'on les libère, parce qu'à 21h ils ont entraînement, donc on va quand même faire attention à eux. Est-ce que ce sport est amené un jour, parce que bah, après j'imagine que vous allez peut-être me dire oui, mais parfois on se demande de la présence de certaines disciplines aux Jeux Olympiques. Est-ce que ce sport de roller hockey, vous le voyez un jour aux Jeux Olympiques ou non, hein, peut-être, hein, peut-être que, ou peut-être pas du tout, hein. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question?
Vas-y, j'y vais.
Question piège?
J'y vais. Je pense que c'est un sport qui a le potentiel pour y rentrer. Maintenant, faut prendre en compte que le CIO, si tu fais venir les 8 meilleures nations du roller hockey mondial, ça va te coûter beaucoup plus cher que de faire venir les 14 meilleurs mondiaux du breakdance, quoi.
D'accord, ok.
Donc je pense que c'est plutôt une question d'argent et au niveau du CIO qu'une question de sport en lui-même.
C'est un sport mondial quand même, du coup, c'est quand même développé à l'international.
C'est un sport mondial qui se joue sur les 5 continents. Donc en vrai, oui, il a entièrement sa place aux Jeux Olympiques, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Parce que quand je vois la crosse qui va débarquer aux Jeux Olympiques de Los Angeles, hein, je n'ai rien contre les joueurs de la crosse. D'ailleurs, je crois qu'il me semble que Cédric voulait monter un club de la crosse sur Angers, mais j'imagine que le roller hockey a tout à fait sa place, comme la crosse en tout cas. Maurice, tu voulais dire quelque chose avant?
Après,
de
Après, je pense que la concurrence, entre guillemets, si on doit parler de concurrence entre sport pour les Olympiques, c'est peut-être aussi sur le hockey sur le gazon. Qu'on a vu cet été aux Jeux Olympiques.
Oui, sûrement. Après, je vois que, par exemple, si tu prends hockey, si on dit hockey sur gazon, roller hockey, ça fait trop de hockey. Il y a bien le basket à 5 et le basket à 3, et pourtant, ça pose pas de problème.
Ouais, les beach volley en salle.
C'est ça.
Ouais. Bon, bah voilà. On va poser une candidature pour le CIO pour les Jeux de. C'est Brisbane, c'est ça, hein, il me semble. C'est l'Australie derrière. Hein. Ouais. C'est Brisbane 2030, donc on espère même pas 2032.
32.
Ouais. Brisbane 2032. Bah, merci beaucoup messieurs de nous avoir d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On est ravis d'avoir pu parler roller hockey avec vous, en espérant que la suite de la saison soit aussi belle que ce début, malgré.
On signe.
J'espère bien que vous signez, j'imagine bien. Et si vous voulez suivre, on rappelle l'adresse et l'endroit.
Bah, la salle Claude Debussy. Alors ouais. Après l'adresse pile
poil du colonel Léon Faye.
Et voilà,
c'est ça.
On l'a.
Donc à proximité d'Angers Éventard, enfin de Découflant Éventard, le carrefour des Sept Sonnettes. Voilà, si vous voulez chercher un peu plus près, voilà, Mon Plaisir Cagna, c'est par là et vous verrez forcément les jours de match des supporters des Hawks d'Angers dans les parages.
Et il y a un match samedi soir si vous voulez venir à 19h.
Samedi 19h?
Samedi 19h.
Contre, tu l'as dit,
Villeneuve-la-Garenne.
Villeneuve-la-Garenne. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
Faustin, quelles sont les coûts pour libérer nos invités?
On va s'ambiancer comme les joueurs du SCO sont ambiancés ce week-end dans le vestiaire. On va s'écouter Monaco de Guy de Besbar.
Elle veut son Chanel bag. Je dis, viens voir Coco. Tu m'as reconnu au feu rouge, mais quand t'es dans le merco. Si tu nous invites, bien sûr on vient, ramène ta clique. T'inquiète, on tient, on bloque tout le vide. On leur laisse l'air, on taille pas de pique, tu le sais bien. Première, tu ne comprends pas, nous c'est pas. On agit direct, mal dit, on voit pas trop parler. Nous c'est les flingueurs, baby. On peut t'arriver, arrête. T'es qui là dans Julio? Dans sa Zoul, dans sa Migos. Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Coco Chanel, on va foutre le bordel. Coco Chanel, on va foutre le bordel. La 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 la
c'est pas eux. On agit direct, Mighty, on va pas trop parler. Nous c'est les flingueurs, baby, on peut arriver et dès qu'il a donc Julio, Los Azul, Casamigos. Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête.
Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête.
Coco Chanel, on va foutre le bordel.
Guy de Besbar, Monaco, forcément, c'était un petit hommage aux Angevins qui nous ont régalé vendredi soir du côté de Louis II en principauté avec cette victoire 1-0. Le SCO qui enchaîne avec 2 victoires consécutives. On l'avait pas vu venir, c'est la Faustin.
Celle-là, c'est clair que battre le ils étaient deuxième à ce moment-là, ils me sont Monaco, ils étaient plus premiers.
Top 3 de Ligue 1, forcément.
En plus là-bas. Ouais. Contre une équipe qui a battu le Barça en Ligue des Champions, qui était en forme et avec la manière en plus. C'est pas un match volé, c'est pas un hold-up. Donc ça fait extrêmement plaisir, parce qu'en plus de ça, le SCO met fin à une série, il me semble, c'était de 19 matchs sans victoire à l'extérieur en Ligue 1. Donc ça fait extrêmement plaisir et ça fait du bien au classement aussi.
Ça fait du bien au classement parce que le SCO est 15e de Ligue 1, sorti de la zone rouge. Donc voilà, ça va donner un peu d'air avant cette réception parisienne. Lors de ce week-end, écoutez, on n'a plus qu'à rêver pour une.
On a tapé le deuxième, on va taper le premier. Maintenant.
Exactement, pour une victoire en juin avec 3 victoires à la suite, pourquoi pas. Et on va entamer avec cette victoire d'Angers donc face à Monaco. L'actu locale de la semaine et du week-end notamment, avec aussi en N2 Saumur qui s'est incliné du côté de Avranches 3-2. Saumur est 7e. L'équipe 2 du SCO a fait un but partout face à La Roche. L'équipe 2 et première. Bocouzé contre La Baule, un but partout. En R2, Muré-Rigny s'est incliné 3-1 à Anceny. La NDC face à Changer, un but partout. Montreuil s'est incliné 3-1 à Bretignolles. Pélouaille a perdu contre Montilly 3-0. En R3, La Vaillante s'est incliné à domicile face à Martinet-Mayenne 3-2. Bocouzé, la 2 de Bocouzé s'est incliné 6-1 face à Saint-Sylvain d'Anjou. Bushman face à La Suze, 2-1 pour Bushman. L'Intrépide et le Foyer de Trélazé se sont quittés sur un score de parité, 2 buts partout. Et la Croix-Blanche s'est inclinée à Saint-Herblain, 1-0. Mais la Croix-Blanche féminine s'est imposée lors du 4e tour de Coupe de France, 5-0 face au Pèlerin. En basket, Faustin, il s'en est passé des choses cette semaine, avec notamment une belle victoire, enfin de ce week-end, une belle victoire scholtaise à l'extérieur.
Ouais, victoire scholtaise face à l'Asvel en Betclic, 101-87. L'Asvel, plutôt Cholet qui fait un début de saison renversant. Une seule défaite pour eux, ils sont le seul leader de leur championnat. Leur défaite c'était face à Monaco, donc contrairement à Angers, ils n'ont pas pu les battre. Mais ouais, c'est un excellent début de saison. Et puis en plus, on voit briller un jeune là qui a brillé notamment face à l'Asvel. C'est Soren Brack qui était un ancien Angevin, un joueur de l'EAB en espoir qui est allé rejoindre Cholet et qui brille tout simplement avec l'équipe une après avoir brillé notamment l'été dernier en Coupe de France avec les espoirs.
Non, c'est une belle chose en tout cas pour les Choletais. L'UFAB s'est imposé même encore une fois. On les arrête plus les filles de l'UFAB.
Une fois de plus, 5e match de Boulanger Wonder League et 5e victoire pour les Angevines qui continuent leur excellent début de saison. Elles surpassent les attentes et sont d'ores et déjà en très bonne voie pour aller décrocher une fois de plus les playoffs. Prochain match, c'est dimanche face à Basketland, un gros morceau où Axel Merceron et Marine Dursus retrouveront leur ancienne coéquipière Léla Lacan qui fait aussi des gros matchs du côté de Basketland
et qui avait fait beaucoup de bien à l'UFAB lors des dernières saisons. Et en N1, dans le derby, on va dire, on va appeler ça un derby quand même parce que on est quand même assez voisins avec Tours, mais l'EAB s'est incliné.
Ouais, nouvelle défaite pour l'EAB. L'équipe commence à montrer des gros signes de faiblesse. Ils sont avant-derniers de ce championnat de N1 au bout de la 10e journée de championnat. On espère qu'ils vont au plus vite réussir à se reprendre. Et pourquoi pas, dès ce soir, face à Poissy. Poissy qui fait pas non plus un très bon début de saison. Ils sont ex aequo avec les Angevins à la dixième, ouais, à l'avant-dernière place du classement.
Et il faut se relancer très rapidement pour les Angevins. En handball, je vais me retourner vers Amaury avec la défaite du SCO. En nouvelle défaite à domicile, 32-24 face à Saran.
Ouais, le SCO qui a une nouvelle fois été moins bon que son adversaire. Je vais pas forcément revenir directement sur le match. Le score est là, il parle de lui-même. Mais plutôt sur ce qui se passe peut-être au sein du vestiaire avec Willan Manbar, le capitaine du SCO, qui a dit que dans le vestiaire, il y a eu une très très grosse discussion, joueurs, staff confondus, où tout le monde a essayé de prendre ses responsabilités. Ils ont discuté entre hommes, pour citer ces mots. Et donc, en espérant un électrochoc dans les semaines qui arrivent, là, 2 semaines sans match pour le SCO, donc peut-être, ouais, le moment de que cet électrochoc fasse quelque chose, que ce soit aux entraînements aux entraînements déjà et après en match. Et Issam Tej, le coach, qui lui a dit que n'importe quel joueur qui aujourd'hui mettrait pas l'intensité qui était demandée et qui sortirait du projet de jeu voulu par le staff ne serait pas reconduit sur les matchs. Maintenant, on espère que ces mesures prises, peut-être un peu tard au vu des premiers matchs, vont faire en sorte que ça aille mieux du côté du score
de
balle.
De toute façon, il y a qu'un seul objectif jusqu'à la fin de la saison. Je pense que Alex était d'accord avec nous la semaine dernière, c'est le maintien et de se battre en tout cas pour approcher au moins cette zone le plus rapidement possible et se donner un peu d'air pour les Angevins en Pro League. Du côté du volet, 2 défaites que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le SCO s'est incliné à Laval chez les garçons 3-7-0 et le SCO s'est incliné donc à l'extérieur aussi à Saint-Cloud pour les filles 3-7-0 également. On sait que les garçons, c'est très compliqué depuis le début de la saison, ils sont pour l'instant derniers de leur poule, tandis que les Angevines sont 4e de leur poule, donc il y a toujours moyen de faire quelque chose, sachant qu'en plus elles viennent de monter. En hockey sur glace, on en parlait un peu en parallèle de l'interview avec le roller hockey, double victoire la semaine dernière pour les Ducs avec une victoire du côté de Nice, 3-1 et une victoire aussi face à Grenoble après prolongation, 5-4 pour les Ducs, donc c'est plutôt pas mal, voilà, un bon retour avec 2 victoires consécutives en déplacement, donc ça fait toujours plaisir. En hockey sur gazon, une belle victoire aussi pour les Angevins, pour le SCO contre le CF Paris, 2-7, 2-0 pour les Angevins aussi également. Et donc en roller hockey, Mathéo, tu en avais parlé, cette défaite donc pour les Hawks, 6-2 à l'extérieur, enfin à domicile contre Vierzon. Voilà pour l'actu locale de la semaine. Et on va passer maintenant avec vous, les garçons. On va prendre le temps pour faire l'actu internationale. Est-ce que vous avez des choses à dire, Amaury?
Je sais pas, commencer par la Ligue 1 et le SCO, oui, peut-être aussi
on avait parlé local, international. En tout petit peu, mais on peut en continuer en débattre si vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus.
On peut revenir dessus sur une performance hyper solide, hyper cohérente des Angevins, avec moi un pressing que j'ai adoré sur ce match, que j'ai pu voir, un pressing qui a perturbé surtout sur les 30 premières minutes les joueurs monégasques, et donc une intensité au duel et peut-être pas le plus beau niveau technique. De toute manière, on le sait que les Angevins, ce sera jamais ça, mais c'est vraiment dans l'intensité, dans la volonté et le groupe Angevin finalement que j'ai été impressionné, et je pense que ça passe par là pour gagner des matchs. Alors en plus, face au SCO, après avoir fait match nul contre Marseille, les gros réussissent bien, on va dire, oui, au SCO depuis un moment. On a de quoi peut-être rêver pour le match face au Paris Saint-Germain qui arrive, mais une belle histoire en plus avec Jean-Claude Aoulou qui marque face à son ancien club, ouais, duquel il avait été un petit peu jeté il y a quelques années, ouais, un magnifique but. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir, franchement ça vaut le coup. Donc très heureux pour le SCO et on espère que ça va continuer.
Allez, on fait un petit prono pour ce week-end face au Paris Saint-Germain. On prévient les avocats de Radio G, on met tout le budget de la radio et on essaye de mettre la belle cote sur Winamax, Mathéo.
Bah écoute, si Bioumla se comporte aussi bien que contre l'AS Monaco, je n'en doute pas, étant donné le talent que je donne à Bioumla depuis maintenant son arrivée au SCO. Je pense honnêtement qu'on peut s'en sortir avec, pourquoi pas, un 2-1.
2-1 pour le SCO.
Ouais, d'accord. On a vu des bonnes choses. Je pense pas qu'on ne prend pas de but face au PSG, d'accord, quand même. Et si on devait gagner, je pense que ce serait par deux buts d'écart. On a déjà inscrit 4 buts dans une rencontre. C'est possible d'en mettre 2 au PSG.
D'accord.
Eh bien, mon côté angevin et marseillais va dire 3-0 trippé de Bamba Dieng. Mais sinon, non, je pense que le SCO peut faire un match solide. Bon, si je dois faire un vrai pronostic, je dirais une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Pas que j'ai pas envie que SCO gagne, mais je pense que ce serait pas non plus, c'est pas non plus horrible, hein, de perdre contre le PSG. Et je pense que ce sera sur les matchs derrière qu'il faudra aussi continuer à aller chercher les points.
Ok. Moi, je pense qu'une vraie victoire, ouais, c'est ça. Ça passe par un 2-1. Pour ouais, le PSG.
S'il y a une victoire, ça va être un 3-0, je pense.
Faustin, allez. Pas,
mais, bon, on a eu une victoire et une défaite. Moi, je vais dire un match nul.
Ouais.
Un petit 1 partout. Comme ça on a un peu de spectacle, on vibre un peu à 1-0 pour Paris, et puis bon, on égalise à la 60e minute, but de El Melali
et on tient.
Ok, voilà. Moi je mets une pièce sur un but à 0 pour le Paris Saint-Germain, par la plus petite des marques.
Surtout très bonne chose
avec la Ligue des Champions. Ah, oui. Ouais, mais ça serait quand même pas mal pour je pense que Faustin signerait pour le pronostic de Matteo. Je pense que si le pronostic de Matteo il passe, je pense que Faustin hélicoptère au-dessus du Parc des Princes, ULM, enfin, tout ce que vous voulez quoi. Il prend tous les avions qui existent. Donc vraiment, non, mais après on verra si ton pronostic passe, Matteo, on verra. Si
tu veux que je te donne les buteurs?
Vas-y, carrément. On va demander un petit pronostic
jusqu'au bout. Je pense que les buteurs pour le SCO, je pense que Nian va marquer. Sens que Nian va marquer, ça j'en suis sûr. Indépendamment de la victoire qui est peut-être trop surfaite sur mon pronostic, mais je pense que Nian va marquer contre le Paris Saint-Germain, et pourquoi pas un but de Bioula. Voilà, un petit corner, but de Bioula, il est très grand, il y a toujours D'accord. moyen de moyenner dessus.
Alors.
Et puis pour le PSG, Barcola,
ok.
Ça m'embête, mais
on va faire un truc, c'est que ce soir, je pense que, ou dans les prochains jours, on va mettre le ticket. Alors après, je connais qu'un site qui finit par Max, mais c'est pas très grave ça. Mais on mettra sur les réseaux sociaux le ticket spécial de Matteo. On verra que la cote va être énorme parce que Bioula, Nian,
ah bah le combo,
Barcola, but, victoire 2-1 du SCO à l'extérieur. Je pense qu'on est sur une très très belle cote.
Ouais. On est pire que
le 7-1. Excuse-moi, c'est à domicile, oui.
En parlant de... Vas-y.
Non, mais j'allais juste dire qu'on sera pire que pour le 7-1 de l'Allemagne face au Brésil, en termes de cote.
Hein. Exactement.
En parlant de Paris, j'ai eu le droit à 10 euros de free bet ce week-end. Je me suis dit, j'ai vu la cote du SCO à 12, je l'ai mise.
T'as mis la
victoire du SCO. Et derrière, j'ai voulu mettre Paris FC vainqueur pour additionner. Ils ont fait 3-3 contre Rodez, donc j'ai tout perdu.
Ah, dommage. Dommage. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Bon, c'est déjà une bonne chose.
Faire un combiné sur le SCO. Voilà. Ça marche pas, avec même dans le sens inverse.
Ah là là. Le reste de la Ligue 1, Maurice, est-ce que tu as les résultats du week-end?
Et oui, la Ligue 1 ce week-end qui est arrivée avec surprise et des victoires de 4 des équipes présentes aux 5 dernières positions. Le SCO, on a parlé, a battu Monaco. Saint-Etienne s'est également imposé contre Strasbourg. Toulouse contre Reims et le Havre contre Montpellier. Montpellier qui était déjà en grande difficulté et contre donc le grand perdant du week-end avec maintenant 5 longueurs de retard sur le 17e. L'autre perdant, c'est donc Monaco qui voit le PSG vainqueur de Lens s'envoler seul en tête et voit même l'OM lui passer devant à la différence de but après sa victoire à la Beaujoire. Dans les autres résultats, Lille a été accroché 1 partout par Lyon grâce à un but de Malik Fofana dans le temps additionnel. Nice de son côté s'est imposé du côté de Brest par la plus petite des marges. Et enfin, la claque du week-end est l'œuvre d'Auxerre, vainqueur 4-0 de Rennes, qui s'enfonce toujours plus au classement et ne compte que 1 point d'avance sur la zone de relégation. Et on parle peut-être ces dernières heures d'un changement de coach du côté de Rennes, même si rien n'est officiel. Matteo, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as pu suivre un petit peu ce week-end, autre que le SCO, et peut-être même le match de Lyon face au LOSC?
Ah bah bien sûr que je l'ai vu, le match de Lyon face au LOSC, forcément. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que ça pourrait durer des heures, tant ce match il est symptomatique de l'Olympique Lyonnais. Demi-temps en demi-teinte. Donc forcément une mi-temps géniale la deuxième, où encore une fois je pense que sur la fin il y a peut-être une décision contestable par rapport à l'arbitrage et ce but qui a été annulé. J'invite nos auditeurs peut-être à aller voir les images pour se faire un avis, parce que c'est intéressant aussi pour se forger quelque chose par rapport aux règles déjà existantes. Donc j'ai vu ce match là forcément. J'ai regardé aussi le match d'Auxerre contre Rennes. Donc très intéressant, parce que moi Auxerre c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Je trouve que le recrutement a été très cohérent. On a eu des arrivées notamment à des postes où on s'y attend pas trop, notamment le poste de latéral droit, où on a un jeune qui s'appelle Oever qui est super intéressant, que j'aime beaucoup. Et puis surtout on a Junior Traoré, donc ça c'est vraiment un point qui fait qu'on doit suivre au Auxerre cette saison. Et puis bah c'est très compliqué pour Rennes. Comme tu l'as dit, un changement de coach s'impose, mais au-delà de ça, je pense que les choix directionnels n'ont pas été bons cet été, notamment sur le mercato qui en a découlé. Donc c'est négatif pour Rennes, mais je pense que cette victoire-là, elle peut avoir un aspect positif derrière si tu reprends bien les choses.
Après un mercato qui, ils ont aussi cherché des joueurs qui étaient peut-être pas très connus. On s'est tous enthousiasmés au premier match de la saison.
Ça dépend. Il y avait des joueurs comme Grønbæk qui étaient quand même suivis par beaucoup de clubs en Europe. Après, oui, on a eu des Henrik Meister, mais ça, c'est plutôt une histoire d'agent de ce qu'on a vu. Mais des joueurs comme Grønbæk, comme Jota, c'est un super mercato aussi de faire revenir Jota, c'est un super transfert. Mais encore une fois, Grønbæk, est-ce que tu dois le payer 10 millions? Jota, qui a pas joué pendant un an, est-ce que tu dois le faire, tu dois le payer 8 millions? C'est ça aussi, ouais. C'est des questions de montant, de cohérence, mais ça, il faudrait plus de 10 minutes pour.
Exactement. Et en fait, on vous le promet depuis de nombreuses semaines, mais on est en train de préparer ça tout doucement pour vraiment vous sortir cette émission aussi. En plus, ce petit bonus chaque semaine où vous retrouvez des émissions sur le basket, notamment sur la NBA qui va revenir prochainement, mais pas seulement. On va essayer d'aller un peu plus loin dans ces sujets parce que parfois voilà, on se sent un peu frustré et donc on va avoir ces petits bonus de Génération Sport aussi sur les réseaux, sur Twitch notamment, et donc prochainement vous verrez des annonces sur les réseaux sociaux là-dessus. La suite de l'actu internationale, Amaury.
Oui, on parlait de Lyon qui affrontait Lille, mais Lille, eux, ce soir, ils jouent face à la Juventus en Ligue des Champions et ils vont essayer de continuer leur série d'exploits après leur victoire face au Real Madrid et l'Atlético Madrid, un troisième grand d'Europe face à eux, ça pourrait être magnifique, comme Monaco qui affronte Bologne et qui va aussi essayer de confirmer sa place dans le top 8. Pour le PSG, le rendez-vous est pris pour demain soir face à l'Atlético, club également en difficulté sur la scène européenne depuis le début de saison, donc match très très important pour les deux clubs et qui va pouvoir peut-être dicter cette deuxième partie des matchs de phase de groupe de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. On enchaîne avec de la Formule 1 et un Grand Prix qui aura suscité de nombreuses incompréhensions sur les décisions de la FIA en début de course, notamment sur le fait de sortir la voiture de sécurité ou non, mais surtout un Grand Prix qui sera disputé sous la pluie battante et remporté par un Max Verstappen qui a été imperturbable et irréprochable sur la piste cette fois-ci, ce qui lui permet de... Pour une fois, après, ça c'est un débat qui est très très long sur Max Verstappen. On pourra en parler aussi plus longuement à côté. Qui était parti 17e, il arrive premier en ayant fait un Grand Prix magnifique. Rien à dire. Et ce qui nous fait surtout extrêmement plaisir, c'est la place de nos deux Français pilotant une voiture française, l'Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui se hisse à la deuxième et à la troisième marche du podium. Ça a été pas arrivé depuis 27 ans pour que des pilotes français soit à deux sur le podium, donc on peut que les féliciter, et c'est un Grand Prix qui, de mon point de vue, a été passionnant avec la pluie qui a amené plein de situations et les pilotes. Aujourd'hui, moins les voitures ont été mises à l'épreuve, pas moins mises à l'épreuve, mais ça a plus révélé la qualité de pilote plutôt que la qualité de la voiture, et ça, on aime.
C'est peut-être pour ça que les Alpine sont 2 et 3 sur le et, sur le podium de ce Grand Prix, c'est vrai, mais
la phrase est triste pour Norris, par contre.
Oui. Oui, malheureusement, c'est clair.
C'est le grand perdant.
C'est le grand perdant du week-end, et je pense que tu l'interroges le matin même après les qualifs, parce qu'en plus c'était un Grand Prix un peu particulier. Ouais. Les qualifs se sont faits le dimanche matin, enfin très tôt au Brésil, donc il devait être 7h30 je crois, l'heure de mémoire, parce que il y avait ces 4 heures d'écart. J'ai regardé les qualifs à 11h30, ouais, donc c'est ça. Mais en sortie de qualif, il est en tête, il est en pole, et tu te dis bon bah voilà, c'est autoroute. En plus Verstappen est 17e, et bah en fait le mec qui a pas suivi le Grand Prix, bon, on a quand même eu un œil dessus, mais t'imagines le gars qui voit Norris au qualif et qui à la fin voit Verstappen premier et Norris en dehors du top 3.
Il faut expliquer aussi quand même pour nos auditeurs qui n'ont pas du tout suivi la course, qu'il y a eu un fait de course avec donc d'abord une virtuelle safety car qui a été sortie, tout le monde qui rentre au stand pour changer les pneus sauf Verstappen et les deux Français et Bottas. Et trois tours plus tard, il y a un drapeau rouge, ce qui fait qu'ils étaient repassés devant pendant que les autres changeaient leurs pneus. Et sous le régime de drapeau rouge, tout le monde peut changer ses pneus. Ce qui fait qu'au redémarrage, les Français Verstappen étaient devant, avaient des nouveaux pneus. Donc c'est comme si la course repartait à zéro après 33 tours. Ouais. Et avec cette fois-ci, oui, Verstappen en deuxième position, Ocon devant. Donc forcément, ça a joué à leur avantage. Mais c'est la stratégie aussi en F1 et ça fait totalement partie de ce sport.
Ouais, tu lances les dés et tu vois ce qui se passe à la fin. quand il y a des faits de course. Et on se souvient que d'ailleurs, il me semble que Ocon et Gasly avaient gagné là-dessus aussi, hein, de oui, mémoire. Hein. Donc leur course à l'époque, quand ils avaient gagné en Italie, puis aussi en Hongrie pour Ocon. La suite, Amaury.
Ouais, autre performance française du week-end en tennis, cette fois-ci avec Hugo ouais. Humbert, finaliste du Masters 1000 de Paris après une semaine exceptionnelle où il aura battu Carlos Alcaraz, Jordan Thompson et Karen Khachanov. Le Français a finalement dû céder en finale face à Alexander Zverev qui était incontestablement le meilleur sur ce tournoi. Cette belle performance lui permet de gagner 4 places au classement ATP et de se rapprocher doucement mais sûrement du top 10 en étant 14e. Et on a quand même deux Français dans le top 20 avec Arthur Fils qui est 20e. C'est ouais. pas mal pour le tennis français qui a longuement été critiqué ces dernières années.
Qui revient tout doucement, exactement. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le tennis français, les garçons. Non ?
Si, carrément. Ouais. Bah, c'est...
Je te voyais faire...
Non, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ouais, le tennis français aussi, parce que je pense que c'est une phase de transition quand même.
Oui.
Où on a eu des gros joueurs quand même, même si c'était pas des gros joueurs mondiaux, quoique mon fils a été quand même haut, il a été jusqu'à la 6e place du classement.
Son
il a
fait deux finales de Grand Chelem. Hein.
En plus. Donc on a quand même eu des Français très performants, très connus aussi, très populaires, qu'on a vu un petit peu partout, sauf qu'aujourd'hui ils sont en fin de carrière. Il faut retrouver justement ces nouvelles têtes, ces nouveaux visages. Ce qui arrive parce que Hugo Humbert il a 26 ans. On a aussi Arthur Fils qui a 20 ans, qui sont des jeunes joueurs plutôt prometteurs qui performent. On en a plein des joueurs.
Ouais.
Donc c'est hyper intéressant. Après Hugo Humbert quand même, si je dois nuancer peut-être le Masters 1000 de Paris-Bercy qu'il a fait, c'est que il tombe contre un Alcaraz qui est fatigué. Ça enlève rien à la performance, hein, attention. Et en demi contre Khachanov, bah Khachanov il est quand même il se blesse sur la fin du match. Donc c'est à nuancer quand même si attention, ça reste un super match et la finale contre une adversité constante, bah ça l'a pas fait tout simplement.
Face à Zverev, c'est trop fort. Quand Zverev est à 100%, Zverev est pour moi il est top 3 facilement top 3 et peut-être pas 3e, hein, c'est quand Zverev est à son niveau, c'est exceptionnel. Donc il y avait entre guillemets rien à faire sur ce match-là, Zverev était meilleur.
Mais c'est intéressant d'avoir des performances comme ça pour le tennis français, c'est ce qu'il nous faut.
Il nous reste quelques minutes à mourir. Je pense que tu vas peut-être parler un peu de NBA. Je sais pas si t'en as sous la main.
On peut y aller juste avant. Ouais, avant d'aller sur NBA, je pars sur Léon Marchand. Oui, encore lui.
Évidemment.
Depuis un mois, on parle de lui tous les mardis. La semaine dernière, même s'il a encore gagné, il n'avait pas établi de nouveau record. Et le simple fait de le mentionner, bah, c'est montrer à quel point il a banalisé ses exploits. Mais une semaine sans repousser les limites, c'était déjà trop pour lui. Ce week-end, il a décidé d'effacer les tablettes un certain Ryan Lochte, légende absolue du 200 mètres 4 nage, en battant son record du monde en petit bassin de près d'une seconde. C'est phénoménal. Et donc, on est presque sûr qu'avec sa forme montante, il va même pouvoir encore peut-être améliorer son record. Et pourquoi pas au championnat du monde petit bassin en décembre. On parle de NBA. Donc, la NBA qui a repris depuis plus de 2 semaines maintenant. Ouais. Et donc, je vais pas vous donner tous les résultats. Mais donc, juste savoir que les Cleveland Cavaliers réalisent un début de saison exceptionnel avec 8 victoires en autant de matchs. Les Celtics restent sur leur forme de la saison dernière avec 7 victoires pour une seule défaite. Pendant que, à l'Est, les Bucks de Giannis Antetokounmpo et Damien Lillard sombrent après un enchaînement de 6 défaites d'affilée. Ils ont seulement gagné leur premier match. Et donc, 2 dernières défaites face aux Cavs de très serrées. Mais à chaque fois, ça finit par perdre. Donc, compliqué pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo. À l'ouest, maintenant, le début de saison canon revient au Thunder, qui devient, après 7 matchs, la première équipe de l'histoire avec 7 victoires de plus de 10 points. Alors, c'est la petite stat qu'on met ici, mais c'est important à souligner. Ça montre leur domination, et notamment d'un point de vue défensif, où c'est exceptionnel. Toujours à l'ouest, bon début de saison aussi des Warriors et des Suns, avec 6 victoires pour une défaite. Très, très, très intéressant. Et enfin, j'ai envie de terminer par un coup de cœur pour Bilal Coulibaly, qui est désormais titulaire à Washington et qui impressionne depuis le début de saison. Toujours une super défense, ça on le sait depuis l'année dernière. Il s'est tout de suite imposé comme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs, mais des stats offensives qui doublent presque toutes. Faustin, je te lance sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de notre Français ?
Bah ouais, c'est une année sophomore qui est juste exceptionnelle, qui est en train de nous faire. Il a encore de la marge en plus. Il est bien accompagné par son homologue français Alexandre Sarr, qui l'a servi en alley-oop. C'était contre à Mexico. C'était une très belle action. Mais ouais, c'est incroyable, c'est magnifique ce qu'il nous fait en ce moment.
Petite question. Qui est le meilleur français depuis le début de la saison NBA ?
Victor Wembanyama.
Ok.
Victor Wembanyama qui a fini avec 9 contre la nuit dernière. On en reparlera plus longuement dans Génération Sport spécial NBA, donc jeudi soir sur Twitch. On n'aura pas de limite de temps, donc on pourra parler librement de tout ce qui se passe. En tout cas, on se retrouve donc la semaine prochaine, sinon sans Génération Sport. On vous embrasse affectueusement et on se retrouve donc la semaine prochaine et jeudi pour parler de NBA. Ciao, ciao.